Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, à moins d'une heure donc des premiers résultats du second tour de ces élections législatives, nous allons à rebours de la situation actuelle, de la crise politique, de l'inquiétude de la société française fracturée en ces jours moroses, et bien parler des jours heureux. En tout cas de quelques-uns d'entre eux, grâce à notre invité Jean Garrigue, qui vient de publier un livre qui porte comme titre « Jours heureux » avec un sous-titre important « Quand les Français rêvaient ensemble ». Il est arrivé à plusieurs reprises dans notre histoire contemporaine que les moments de grâce et de bonheur collectif contribuent à l'unité de ce peuple si prompt à se diviser, note-t-il avant de nous faire revivre certains de ces moments de liesse depuis la fin du XVIIIe siècle. Nous allons donc vous proposer aujourd'hui un peu de lumière dans la pénombre dans ce nouveau numéro d'Idées, un magazine que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez sur l'appli RFI Pure Radio, le site de RFI et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Jean Garrigue.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro en ce jour important que vous suivez, dois-je le préciser, avec beaucoup d'attention, comme toute l'actualité politique. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine émérite à l'Université d'Orléans, président du comité d'histoire parlementaire et politique, auteur de nombreux livres sur l'histoire politique française. J'ai voulu qu'on rêve un petit peu avec vous, c'est possible ?
Avec grand plaisir.
Parce que l'histoire a offert des moments de liesse. Mm. On peut parler de liesse. Hein.
Ah oui, de liesse et d'une liesse spontanée. Pas seulement orchestrée artificiellement par les autorités de l'époque. Non, à chaque fois, c'était spontané. Ça qui est beau.
C'est difficile de parler de liesse avec les Français qui sont en quelque sorte cyclotimiques, c'est-à-dire qu'il y a des jours d'exaltation même et des jours de déprime totale.
Je dirais même beaucoup de jours de haine. C'était d'ailleurs le titre
aussi,
d'un livre que j'avais commencé à écrire quand j'en ai été presque saturé et que j'ai donc choisi d'aller plutôt du côté lumineux de notre histoire.
Je vous en remercie.
et montrer à quel point, à certains moments, justement, nous avons su rêver ensemble et donc célébrer ensemble ce rêve d'avenir.
Il est difficile, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans l'introduction, de choisir ces moments précisément.
Oui, mais finalement, ce qui a guidé le fil conducteur de cette histoire, c'est de montrer qu'à chaque étape de cette liesse populaire, de cette liesse spontanée, ou quelquefois accompagnée par les autorités politiques, il y avait une façon de faire progresser notre idéal démocratique, de faire avancer cette construction à la fois, culturelle et politique, vers notre idéal qui reste celui des Lumières, qui reste celui de la Révolution française en réalité.
Il y a un document, d'ailleurs vous commencez votre livre avec lui, qui s'appelle « Les jours heureux », écrit par le Conseil national de la Résistance. Lui symbolise une époque heureuse. Il revient souvent d'ailleurs dans la conversation quand on parle politique.
Complètement, ça avait été d'ailleurs réutilisé lors de la campagne de 2022 par le candidat communiste Fabien Roussel. Ça avait été utilisé aussi dans un discours par Emmanuel Macron. Donc on voit très bien que cette idée des jours heureux, qui se réfère au programme du Conseil national de la Résistance en 1944, c'était le sous-titre,
adopté à l'unanimité.
À l'unanimité, et incarne bien justement un moment comme ça où, au sortir d'une période sombre qui était celle de l'occupation, on essaye ensemble, et c'est ce qui s'est passé à l'époque, hein, il y avait tous les partis réunis dans le gouvernement du général de Gaulle, on essaye ensemble de construire un avenir. Et il y a à la fois, évidemment, le soulagement et la joie d'être libéré du joug nazi, mais aussi cette joie de rêver ensemble d'un avenir meilleur.
Nous parlions dimanche dernier avec Dominique Schnapper, la sociologue, ancien membre du Conseil constitutionnel, des atteintes à la démocratie aujourd'hui de l'extérieur et des menaces qui apparaissent à l'intérieur. Il y a ça c'est nouveau, c'est cette défiance à l'égard tout simplement de la démocratie.
Oui, mais on a toujours connu ça depuis la Révolution française. Les régimes qui se sont succédés n'étaient pas toujours respectueux des grandes libertés démocratiques, du fonctionnement du Parlement. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, ces moments, ces jours heureux, ont été des ruptures avec des périodes plus sombres, des périodes plus autoritaires. Donc, après les menaces qui pèsent sur la démocratie, il y a, à mon sens, et je l'espère en tout cas, il y a toujours des moments de lumière qui réapparaissent où cet idéal démocratique redevient un ciment de notre unité.
Oui, Jean Garrigue, parce que nous allons prendre quelques exemples tirés de votre livre, mais il faut préciser, hélas, que ces moments de liesse, ces jours heureux, ne durent jamais longtemps.
Non, ce sont des moments éphémères, il faut le reconnaître, parce qu'ils correspondent à une forme d'idéal, parce qu'ils correspondent aussi très souvent à la fin de périodes noires, difficiles, donc où on va cristalliser un certain nombre d'espérances. Et malheureusement, la société française est une société conflictuelle qui est toujours rattrapée par cette conflictualité, justement, par ces divisions, par ces outrances, par sa brutalité. Et c'est toujours difficile de faire pérenniser les jours heureux.
Votre livre commence avec la Révolution, et notamment avec la fête de la Fédération. Il faut rappeler ce que fut cette fête de la Fédération.
Oui, c'est pour moi véritablement la matrice de ces jours heureux, parce que c'est une fête donc, qui se propose un an après la prise de la Bastille, de commémorer donc, la chute symbolique de la monarchie. La monarchie n'est pas tombée le 14 juillet 1789, mais symboliquement, elle a été mise en péril et en danger. Et donc, ce 14 juillet 1790, il est fantastique parce que c'est le côté, j'allais dire, positif de la Révolution française. C'est-à-dire que, spontanément, hein, dans toutes les communes de France, et puis ensuite dans les régions, etc., on se réunit pour célébrer ce qui est, non pas la chute de la monarchie, mais l'idée d'aller vers quelque chose d'autre, vers un monde nouveau dans lequel on va abolir les privilèges, la féodalité, et on les a abolis d'ailleurs la nuit du 4 août 1789. Et de ces réunions, de ces fédérations spontanées dans toutes les communes de France, dans toutes les régions de France, on a l'idée de les rassembler à Paris pour ce 14 juillet 1790. Une grande fête, plus d'un million de personnes qui y participent, en spectateurs et en acteurs, qui viennent des quatre coins de France. Le roi qui est présent, qui est obligé d'accompagner la cérémonie.
Oui, c'est l'époque de la Révolution où le roi est encore là. C'est
le roi est encore là.
Une espèce de cohabitation.
Exactement, il y a une forme de cohabitation. Il prête serment à la nation, ce qui est quand même un concept totalement nouveau. Et il y a quelque chose là d'un enthousiasme et d'une perception positive de l'avenir qui est magnifique. Alors c'est vrai aussi que ça ne va pas durer parce que très vite les révolutionnaires vont se diviser. On va aller vers d'abord la fuite de Varennes, la chute du roi, la mort du roi, la terreur, etc. Mais il y avait eu à ce moment-là, ce 14 juillet 1790, une telle ferveur, une telle espérance que incontestablement j'avais envie de la raconter comme véritablement la matrice de ce que peut être, justement, de ce que pourront être pour toujours ces jours heureux.
Il y a décidément deux mots qui expliquent ces jours heureux, c'est la perspective et oui. l'espérance. Deux mots qui sont revenus souvent dans vos propos de jusqu'ici.
Exactement. Et il n'y aurait pas de jours heureux s'il n'y avait pas eu à chaque fois, même si très souvent ces jours heureux étaient plutôt des jours de conclusion de période noire, mais en même temps, il fallait que dans ces jours-là, dans ces jours de liesse où on célèbre, où on fête, et je raconte en détail ces célébrations à chaque fois, mais s'il n'y avait pas eu derrière l'espoir de construire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, d'aller toujours plus loin vers, je répète, cet idéal de la démocratie. Au fond, comment approfondir ces idées de liberté, d'égalité, de fraternité qui était là le 14 juillet 1790, mais qu'il fallait maintenant rendre possible. Ben, à chaque fois, il y a cette espérance qui pousse à la fête.
Alors, il y a une autre révolution, 1848, qui suscite aussi l'espérance, les perspectives, et on y crée même une fête de la fraternité. Aujourd'hui, on ne pourrait pas créer une fête de la fraternité, même appeler une fête de la fraternité.
Dans une société aussi fracturée que la nôtre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, la société de 1848, elle est aussi extrêmement fracturée. On est la fête de 1848, elle vient clôturer une révolution, celle de février, qui a mis fin à un régime de monarchie, qui était critiqué de plus en plus, qui était de plus en plus autoritaire. D'ailleurs, c'était la monarchie selon Guizot. Et cette fête, elle met en avant des républicains, mais des républicains qui sont eux-mêmes divisés. Il y en a qui sont des radicaux, des socialistes, qui veulent aller beaucoup plus loin dans le partage des terres, dans le partage des biens. Et puis des modérés, comme Lamartine, qui sont au pouvoir. Et malgré ça, malgré ces divisions qu'on sent en permanence et que je raconte, il y a ce besoin de mettre en exergue cette idée nouvelle qu'ils appellent la fraternité et qui est le ferment d'une unité. On est des frères, on est tous identiques malgré nos différences et on se retrouve ensemble pour chanter, pour planter des arbres de la liberté avec le soutien, c'est important à l'époque, d'une grande partie du clergé, de l'Église, qui n'est plus à ce moment-là cette institution, je dirais, répulsive,
contre-révolutionnaire.
Et voilà, contre-révolutionnaire, adossée à la monarchie, associée à la monarchie, mais qui, elle aussi, partage finalement cet élan vers quelque chose de neuf qui fait fraternité, justement.
Fête de la fraternité et fête de la concorde. Aussi.
Fête de la concorde. Alors, la fête de la concorde sera un peu plus institutionnelle, sera un peu plus dictée par des préoccupations politiques, précisément pour, contrecarrer ces germes de division qui sont en train de venir. Parce qu'il faut se rappeler qu'au mois de juin 1848, ceux qui gouvernent, les modérés, vont réprimer, et réprimer dans le sang, une insurrection ouvrière, socialiste des Parisiens. Donc il y a beaucoup de difficultés à entretenir cette fraternité, cette concorde, mais l'idéal reste celui-là. L'objectif reste cette concorde et cette fraternité. Et c'est ce qui fait qu'on a eu cette impression pendant quelques mois des jours heureux.
Alors ce qui est assez étonnant, et votre regard d'historien est appréciable, Jean Garrigue, c'est que, donc on sait comment les choses ont évolué, évidemment, Napoléon III, d'abord élu et ensuite qui fait un coup d'État, et il y a une fête du plébiscite.
Oui, c'est ce qui est troublant, parce qu'on pourrait se dire que, au contraire, Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait prêté serment en tant que président de la République, donc au régime républicain, a lui-même, le 2 décembre 1851, brisé ce serment et instauré un régime qui, en tout cas au départ, pendant une dizaine d'années, est un régime très autoritaire, qui ne respecte plus les libertés élémentaires, qui ne respecte plus la liberté du Parlement, ce qui s'appelait à l'époque le corps législatif. Bref, un régime d'autorité. Et malgré ça...
Le 1er janvier 1852, il y a une fête du plébiscite.
Exactement, parce que il faut bien voir que l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, le 10 décembre 1848, a été, là encore, plébiscité par la majorité des Français. Au sortir de toutes ces divisions, toutes ces crises qui avaient suivi les débuts de la Seconde République, les Français se sont retrouvés dans cette figure qui leur évoquait évidemment la grandeur du temps de son oncle, c'est-à-dire Napoléon Ier, et qui a su répondre finalement aux angoisses, au désir d'ordre de la plus grande majorité des Français. Je rappelle qu'à l'époque, la France est une France rurale, une France où 85% sont des petits propriétaires, des cultivateurs, des paysans. Et donc, Louis-Napoléon, qui deviendra Napoléon III, a su répondre à leur attente et à son tour, finalement, j'allais dire, récupérer, incarner cette aspiration à l'unité et au progrès aussi, qui fait partie de ces jours heureux.
Suite de ce numéro d'idées en compagnie de Jean Garrigue, qui a écrit « Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble », un livre publié chez Payot avant la proclamation des résultats du second tour des législatives. Nous parlons donc de ces jours heureux dans ce marasme politique d'aujourd'hui. Nous avons évoqué, grâce à vous, la Révolution, 1789, 1848, Napoléon III, mais il y a aussi des... L'exposition universelle, parlons de l'exposition universelle de 1889, qui elle aussi va susciter l'engouement et le contentement, la liesse aussi. C'est en plus 100 ans après la Révolution.
Voilà, c'est un moment très, très important ce qui se passe en 1889, parce que c'est le moment où cette Troisième République qui s'est instaurée sur les décombres du Second Empire en 1870... atteint, j'allais dire, son âge de maturité et devient de plus en plus remise en cause, et notamment par un personnage tout à fait particulier qui s'appelait Général Boulanger, qui est un peu le premier des grands leaders populistes de notre histoire. Et on voit bien que face à la menace de dislocation et face aux critiques très sévères que les boulangistes, les partisans de Boulanger, porte au régime républicain, eh bien finalement, ce qui va l'emporter, c'est ce besoin d'unité, cette célébration de la Troisième République qui est, je dirais, le fil conducteur de ce centenaire de la Révolution française. Et pour célébrer justement ce centenaire de la Révolution française, il y a non seulement toute une série de manifestations, le 5 mai, le 4 août, le 14 juillet évidemment, et même au mois de septembre, il y a toute une série de manifestations, et il y a aussi cette exposition universelle magnifique qui se présente comme la vitrine de tout ce que la République a permis en France, et de tout, au fond, de tout ce que la démocratie, depuis 1789, a permis, avec ce symbole qui est, je dirais, le majeur, qui est la Tour Eiffel, oui. Construite en 2 ans, prouesse technique, qui s'élève comme, je veux dire, comme précisément ce rêve démocratique de métal, finalement, que représente la Tour Eiffel. Alors, c'est vrai que la Tour Eiffel, elle a été très critiquée, des Maupassant et les autres qui ont dit que c'était affreux, que ça défigurait Paris. Mais c'est considéré à ce moment-là comme une victoire, presque une victoire politique. Et cette exposition universelle, 3 millions de visiteurs, un succès fou.
En 6 mois,
c'est,
oui.
C'est la concrétisation de ce rêve républicain. Et on voit bien cette atmosphère de liesse qui baigne véritablement toute cette année, alors que c'était une année dangereuse pour la République, parce que précisément, les monarchistes alliés au boulangisme voulaient en profiter. Il y avait des élections au mois d'octobre pour abattre la République. Au contraire, ce qui se passe, c'est ce phénomène de défense de ses idées, de ses valeurs, incarné par l'exposition et par la Tour Eiffel.
Alors donc, la liesse avec une exposition universelle, la liesse avec une révolution, il y a aussi la liesse, les jours heureux, et le soulagement, ô combien, après les guerres. C'est-à-dire, oui. 1918-1944, nous consacrerons un numéro prochainement, un numéro d'idées à la libération de Paris. 1918, par exemple, d'évidence, le 11 novembre 1918, le jour de l'armistice.
Oui, incontestablement... ces années noires de la Première Guerre mondiale et de la Seconde, mais là, concentrons-nous sur la Première Guerre mondiale, qui a été une boucherie abominable, des millions de morts, des millions d'orphelins, de femmes veuves, etc. Il y a effectivement là, essentiellement, l'idée du soulagement. Après les années d'horreur, toutes les familles françaises ont été peu ou prou touchées dans leur chair par le conflit, par la Première Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle Clémenceau, à qui certains conseillaient d'aller jusqu'à Berlin, de prolonger la guerre jusqu'à l'écrasement de l'Allemagne, a arrêté dès qu'il a pu, le 11 novembre 1918, en disant « Je ne veux pas qu'un autre poilu, un poilu supplémentaire puisse mourir du fait de ce drame absolu qu'était la Première Guerre mondiale. » Et donc forcément, au lendemain d'un conflit comme ça, et dès le 11 novembre, je le montre dans certaines communes de France, il y a cette atmosphère de liesse. Oui, je mélangeais la liesse et la fête. Cette atmosphère spontanée dans laquelle, justement, et c'est ce qui est émouvant, se mêle évidemment le recueillement, la détresse aussi pour beaucoup, mais avec cette idée que voilà, on est sorti de quelque chose d'horrible. Et c'est toujours, et c'est ça qui est intéressant, avec l'idée de construire quelque chose qui ne sera plus comme avant. On le voit bien, justement, en citant Clémenceau, il disait la France a gagné une guerre, maintenant il faut gagner la paix. Et gagner la paix, ça veut dire construire un monde nouveau, ce qui explique d'ailleurs que très très vite, il va y avoir une pression sociale, des grandes manifestations, notamment pour réduire la journée de travail à 8 heures. Mais on voit bien dans toutes les composantes de la société française, cette idée, d'abord, du plus jamais ça. Malheureusement, ça n'a pas été un résultat très, très positif sur ce point. Mais cette idée que c'était la dernière, qu'aujourd'hui, on devait reconstruire à ce moment-là une Europe pacifiée, c'est ce que portait par exemple quelqu'un comme Aristide Briand, le pèlerin de la paix, qui a été prix Nobel avec Gustav Stresemann en 1926. Donc construire un monde nouveau, un monde plus juste, une démocratie plus sociale. Ce qui s'est passé d'ailleurs dans d'autres pays. L'Allemagne, par exemple, la République de Weimar a été un modèle de République sociale avant qu'Hitler, malheureusement, ne prenne le pouvoir. Et donc, il y a cet enthousiasme, ce soulagement, le recueillement, mais aussi l'idée de construire un monde nouveau.
Alors, continuons notre parcours grâce à vous, Jean Garrigue. On peut dire un mot rapide pour pas qu'il n'y ait de connotation avec l'actualité. 1936, évidemment,
oui,
le Front populaire.
C'est typiquement, là aussi... alors, à la fois, il y a aussi, en 1936, cette idée d'un soulagement, celui du monde ouvrier qui, pour la première fois, s'estime entendu par le pouvoir politique. Il y a cette fameuse grève qui a suivi la victoire de cette coalition communiste, socialiste et radicaux en mai 1936. Et pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, la France est paralysée, mais par une grève d'enthousiasme, une grève d'espoir. Et les réalisations, les premières lois du Front populaire, les congés payés, la semaine de 40 heures, tout ça vont être des satisfactions, les premières satisfactions apportées à ce monde ouvrier qui était devenu, alors là, colonne vertébrale de la société française. Et moi, ce que j'ai beaucoup décrit là pour 1936, c'est justement ce qui se passe dans ces usines où les ouvriers s'amusent, tapent le carton, jouent à la belote, chantent, jouent de l'accordéon, dansent. Voilà, cette atmosphère de fête, précisément parce qu'on se disait « un monde nouveau est possible, on va le réaliser ».
Idée.
Alors il y a la guerre 44, évidemment la libération de Paris, je répète qu'on y reviendra, et vous consacrez au moins deux chapitres à De Gaulle, 1958, le retour de De Gaulle au pouvoir, et 1968 également, qui sont deux moments où il y a de la joie, j'allais dire, pour des raisons évidemment différentes.
Oui, au fond diamétralement différentes, c'est-à-dire que 58, c'est le retour de l'ordre, c'est le retour avant tout du héros de 1940, le sauveur, l'homme providentiel. On voit la 4e République en difficulté à cause de la guerre d'Algérie, incapable de gérer finalement cette décolonisation difficile et complexe qu'est celle de l'Algérie, colonie de peuplement. Et donc, on a le retour au pouvoir de cette figure qu'est le général de Gaulle. Alors, retour qui est conflictuel aussi, parce que vous avez toute une partie et une grande partie de la gauche qui le voit venir comme une sorte de nouveau Bonaparte et qui voit dans le 13 mai 1958 un nouveau coup d'État, un coup d'État qui ne dit pas son nom, mais similaire à celui du 18 Brumaire. Mais néanmoins, quelque chose d'un ferment d'unité, d'un désir d'unité se cristallise autour du général de Gaulle du fait de la figure prestigieuse qu'il a et aussi du fait de ce qu'il promet aux Français et qu'il va réaliser en grande partie, c'est-à-dire la croissance, le miracle économique des années 60.
Parce qu'en plus, sur fond d'économie prospère.
Sur fond d'économie prospère. Ouais. Le retour de la grandeur, une politique d'indépendance nationale, l'arme atomique qui permet justement l'indépendance entre les deux grands. Bref, il y a quelque chose là d'un nouveau monde en train de se créer, avec des symboles comme la caravelle, toutes les réalisations techniques et technologique de la France des années 60. Et là aussi, autour de ça, une atmosphère d'unité, de bonheur. Voilà.
Et 10 ans plus tard, la joie est plutôt dans la rue.
Ben oui, la joie est dans la rue parce que vous avez une nouvelle génération qui attend autre chose de la société française. De Gaulle est un homme du 19e siècle. À l'époque, il a 78 ans, ne comprend plus très bien comment a évolué cette société. Et le monde étudiant, qui est à la pointe, finalement, de cette modernité, veut une société nouvelle, qui ne soit plus la société de surconsommation qu'on nous vendait dans les années 50 et 60, qui a besoin d'autre chose, de liberté sexuelle, notamment, parce qu'au début, c'est quelque chose de très important pour eux, d'émancipation individuelle, et qui donc se révolte. Révolte qui est aussi sociale, parce que le monde ouvrier, le monde social attendent de nouvelles réformes, attendent qu'on... Là aussi, une forme de liberté, et ça se fait, ça qui est intéressant, dans la joie. Dans l'unité, dans la liesse. Alors évidemment, il y a les nuits chaudes du Quartier Latin, les pavés qui volent, mais il y a surtout cette atmosphère de fête, d'enthousiasme collectif, de construction d'un monde nouveau qui se fait évidemment au détriment du général de Gaulle.
Parce que sous les pavés, il y avait la plage.
Exactement. Sous les pavés, il y a la plage et c'est fondamental en mai 68.
Je voudrais, Jean Garrig, que nous terminions cette évocation des jours heureux avec vous dans ce numéro spécial d'Idées avec le sport et l'impact de la Coupe du Monde de 1998. Les Français, l'équipe de France de football a été championne du monde en 2018 aussi, mais 1998 est une date particulièrement éclairante. C'était la France Black Blanc-Beurre.
Oui, c'est ça qui est fascinant en 1998 et qu'on a d'ailleurs, hélas, pas retrouvé en 2018, et je ne suis pas sûr qu'on le retrouve un jour. C'était que autour de cette victoire sportive, bon, qui n'aurait pu être qu'une victoire sportive, il y a la victoire d'une société, en tout cas d'une espérance. Et c'est cette fameuse formule Black-Blanc-Beurre, incarnée par cette équipe de France, aux couleurs multiples, avec Zinedine Zidane, De Sailly, etc., des gens qui viennent de toutes origines, je veux dire, français de souche, comme disent les autres, mais français de toutes origines. Et ça a été très, très intéressant de voir à quel point il y a eu tout de suite, et de manière spontanée dans la société française, cette idée que cette victoire sportive était aussi la victoire d'une France heureuse et d'une France qui regardait l'avenir de manière positive. Ce qui d'ailleurs a été tout à fait habilement instrumentalisé par le président de la République, Jacques Chirac, qui a profité aussi d'ailleurs au Premier ministre, alors qu'on était en cohabitation. C'est-à-dire qu'on a vu cette cohabitation saluée par les Français. Mais malheureusement, évidemment, cette espérance d'une France unie, malgré ses différences, elle s'est très très vite estompée parce que 4 ans après la France Black-Blanc-Beurre de 1998, il y a eu le deuxième tour de l'élection de 2002 avec Jean-Marie Le Pen au second tour.
Alors, ce qui a fait écrire Jean Garrig au New York Times, c'est la chose suivante. Une chose étrange s'est passée, écrit le journaliste du New York Times le 8 juillet 1998, donc un peu avant la finale. Ce pays ingérable, jamais d'accord sur rien, éternellement divisé, profondément sceptique, s'est retrouvé uni autour d'une équipe de football, désormais portée au nu aussi bien par les travailleurs que par les hommes politiques et même les intellectuels. Le traditionnel beauf a laissé place à une vague d'enthousiasme qui submerge les Français.
Oui, parce que ce désir d'unité, ce désir de fête, d'enthousiasme, il est toujours là, en dépit de toutes nos fractures, de toutes nos divisions. En tout cas, il a toujours été là jusqu'à aujourd'hui. J'ai arrêté le livre en 1998 parce que c'est vrai que depuis lors, la fracture n'a fait que travailler, les divisions n'ont fait que s'accentuer entre les Français. Mais si on regarde les choses avec un recul d'historien, on s'aperçoit que dans les pires moments justement de fracture, de division, de haine, prenez l'affaire Dreyfus, par exemple, en 1898, il y a eu toujours ce fil conducteur qui est resté d'aller vers une espérance de rassemblement, une espérance de fraternité, tout simplement la concrétisation de ces valeurs fondatrices dont je parlais tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité.
Alors soyons optimistes, Jean Garrig, pour conclure, vous écrivez quand même qu'il suffit parfois d'une étincelle pour que ressurgissent les jours heureux.
Et oui, et on espère qu'un jour, cette étincelle ressurgira.
Merci Jean Garrigue. Votre ouvrage qui fait du bien donc s'intitule « Le jour heureux quand les Français rêvaient ensemble ». Il est publié chez Payot. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à cette même heure pour de nouvelles idées. Dans un instant donc, nous allons retrouver la rédaction pour le début de notre soirée électorale après le second tour des législatives. Résultats, commentaires, invités, c'est dans un instant.